Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Pour que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute. Bonjour Swann Périssé.
Bonjour.
Je suis ravie de te recevoir dans ce format personnalité de Sur le grill décotable. Tu es humoriste, productrice et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, ou comme tu le dis si bien, productrice de blagues et fédératrice d'humains. Après des études à Sciences Po et une formation de théâtre, tu décides de sortir des sentiers battus et te consacres à l'humour et à l'écriture. Tu fais tes armes dans le stand-up que tu finis par mettre de côté pour lancer une chaîne YouTube. Tu crées ta première chaîne, Swann Périssé, et tes vidéos connaissent un grand succès, cumulant des centaines de milliers de vues. Tu crées ensuite ta deuxième chaîne en 2020, Vers chez nous, dans laquelle tu vas chez des abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques du quotidien, allant de l'installation de toilettes sèches à leur propre potager. Tu produis et animes également le podcast « Il y a plus de saison », dans lequel tu interviews des spécialistes de l'écologie, parmi lesquels Jean-Marc Jancovici et Camille Etienne. Tu aimes faire des blagues, mais faire des blagues engagées, tu trouves ça mieux. Ton humour est donc ouvertement féministe et écologiste. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient te voir sur scène, cela tombe bien car tu seras en tournée dans toute la France entre avril et juin pour ton spectacle Calme. L'objectif de ce podcast, c'est d'apprendre à te connaître à travers le prisme de l'alimentation et des enjeux écologiques auxquels tu es très sensible. Mais avant cela, je voudrais que les auditeurs et auditrices te découvrent via ton portrait de cuisine. Toi, tu fais des portraits roast de tes invités sur ton podcast, et bien ici, c'est des portraits de cuisine. Je te demande simplement de répondre à des questions de façon spontanée. Es-tu prête ?
Oui, tout à fait.
Si tu étais un plat ?
Je serais des nuggets vegan.
Ah ouais ?
Ouais, j'adore les nuggets.
Du coup, t'es vegan ?
Non, je suis pas vegan du tout, malheureusement.
Végétarienne ?
Ouais, je suis végétarienne en devenir. On va dire que ça fait 3 ans que j'essaye. J'ai des hauts et des bas, quoi.
Ok.
Je pense que le plus longtemps que j'ai été végétarienne sans toucher à un pet de viande, ça a duré 6 mois. Je fais régulièrement des rechutes et là, j'essaie d'espacer les rechutes, on va dire.
Et est-ce que ces rechutes tournent autour des nuggets souvent ?
Oui, malheureusement.
Il y a un truc avec les
ouais,
nuggets.
C'est vraiment terrible.
Okay.
Vraiment tout ce qui est fast food. Je me disais ça en venant parce que je me suis dit, on va parler de bouffe. Je me suis dit, ce qui me manque, c'est quelque chose de sale et vegan, ouvert 24 heures sur 24. C'est vraiment ça qui me manque.
Ah, mais il y en a là. On rencontre
ouais,
des investisseurs.
Mais pas à Montpellier. Moi, j'habite à Montpellier.
Ah,
ouais,
peut-être.
Ou alors, je connais pas encore.
Si tu étais un ingrédient.
Je serais de l'huile de sésame.
Ok, t'aimes ouais. La nourriture asiatique ?
Ouais, c'est délicieux, j'adore.
Si tu étais un ustensile de cuisine ?
Je serais la Maryse, parce que, par exemple, hier j'ai fait une béchamel, et j'ai bien tout raclé, et je me suis dit, mais même cette Maryse n'est pas adéquate, je vais plutôt prendre mes doigts pour bien prendre tout ce qu'il y a sur la poêle.
T'es plutôt restaurant ou plat fait maison ?
J'adore cuisiner, j'adore manger des choses à la maison. Malheureusement, je manque beaucoup de temps avec ma tournée de spectacle. J'ai joué beaucoup à Paris aussi. Donc, si j'avais le choix, je me cuisinerais toujours des choses à la maison. Mais en réalité, je pense que je mange plus à l'extérieur encore qu'à l'intérieur.
Mais t'aimes aller au restaurant ou pas ?
J'aime aller au restaurant parce que c'est un luxe incroyable. Qui a l'honneur d'y aller 4 fois par semaine ? Enfin,
bien
pas
sûr.
Beaucoup de gens, quoi. Mais non, aujourd'hui, si je pouvais choisir, je resterais à la maison avec mes copains, j'accueillerais, je cuisinerais, j'aurais un amoureux qui fait ça pour moi, mais je n'ai rien de tout ce que je viens d'évoquer. J'ai des amis, mais ils ne viennent pas à la maison.
Si tu étais une boisson ?
En ce moment, j'ai un petit délire sur le kéfir.
Ah bah ouais.
Mais dans mon passé où je buvais encore des sodas, mais avec l'âge grandissant et les convictions écologiques, j'aimais bien l'iced tea, voilà.
Ok.
Ouais. Mais là, le kéfir, c'est une nouvelle passion, voilà.
L'ice tea, il peut être écolo.
Ouais, mais moi, j'aime bien le virer ice tea sale. Tu sais, avec le sucre et tout.
Je vois.
Truc moche avec la marque et toute la pollution qui va autour.
Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges ?
Oui, je fais très attention à ce que je mange. Je suis obligée de faire attention à ce que je mange pour des raisons de performance physique. D'ailleurs, je pense que vous entendez, je toussote un peu et j'ai la voix cassée. C'est vraiment pas bien pour la scène. Mais en gros, moi, quand je suis sur scène, donc ça dure, mon spectacle dure 1h20 à peu près. Je le joue énormément. Je pense que j'ai 45 dates d'ici la fin du mois de juin. Et donc, il faut être en forme, il faut que je sois reposée, il faut que j'aie mangé assez de protéines. Il faut que j'ai pas bu trop de sucre, il faut pas que j'ai mangé 2 heures avant de jouer, mais en même temps il faut que j'ai assez de gras comme il faut, etc.
Et t'es coachée, t'as une nutritionniste qui...
Ouais, enfin c'est pas une nutritionniste officielle, mais je fais du sport avec une dame qui s'appelle Delphine Sport Santé sur les réseaux sociaux, que j'aime énormément. Ça fait des années qu'elle me suit, on fait du pilate ensemble et je fais aussi une préparation de semi-marathon.
Ah ouais.
Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et oui, en gros, elle m'aide un peu à adapter mon mode de vie à comment bien manger, même si t'es en tournée partout, que t'as pas de frigo, que tu dois bidouiller des trucs rapidement, etc. Mais bon, ça m'empêche pas de faire des gros écarts, je mange régulièrement des frites ou je bois quelques bières, etc. Je suis pas du tout concentrée comme si l'alimentation était une obsession ou un objectif, parce que ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des moments où l'alimentation était primordiale, quoi. Mais on va dire que je fais attention la plupart du temps, quoi. Mais c'est pas du tout un truc pour pas gagner de poids, quoi. C'est vraiment pour avoir l'énergie qu'il faut sur scène.
Pour être performante.
Ouais, genre avant de monter sur scène, je bois de l'eau avec du citron intérieur et du sel pour que, genre, être hydratée plus vite, faire des trucs improbables, comme ça, quoi, voilà.
Incroyable. Quel est ton premier souvenir lié à l'alimentation ?
Très bonne question. Est-ce que je peux raconter quelque chose qui m'a marqué, que j'ai vu chez un bébé ? Parce que moi, je me souviens pas.
Ouais, bien sûr.
Bah, en gros, moi, je connais rien au bébé. Moi, je suis la dernière d'une grande fratrie de 4 sœurs. Mais j'ai fait donc un projet qui s'appelle Vert chez vous et je suis allée chez mes abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et j'ai notamment construit des composts d'intérieur et d'extérieur chez une jeune femme qui venait d'avoir une fille qui avait 1 an, 1 an et demi. Il se trouve que j'ai une sœur sage-femme, vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça, parce que elle voulait un petit peu arrêter d'allaiter ce bébé juste le soir, parce qu'elle était vraiment épuisée de l'allaiter le soir. Et sa fille voulait pas du tout boire le biberon, quoi. Et donc, ça la tracassait. Alors moi, je lui dis, si tu veux, on appelle ma sœur, qui est sage-femme, qui pourra te donner son avis. Et en gros, ma sœur a vu que ma copine était très détente, enfin, mon abonné était très détente, pas forcément stressée. Elle lui a dit, tu pourrais essayer de passer directement au petit pot, directement lui faire une petite purée, mixée ou quoi. Et donc, j'ai assisté de mes propres yeux à la première fois que ce petit bébé goûtait autre chose que du lait maternel. Et c'était... l'un des moments les plus émouvants de ma vie, quoi.
Mais attends, il avait pas 1 an, le bébé.
J'en sais rien.
Tu goûtes ton premier pot à 4 mois.
Bon, peut-être que j'aurais grandi n'importe quoi, alors. C'était sûrement pas 1 an et demi, alors. Beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, alors. J'ai vraiment aucune notion des enfants. Mais en tout cas, c'était avant 4 mois, alors, je pense. C'est vraiment... Ça a décrédibilisé tout mon propos. Mais en gros, je me souviens du bébé qui a mis la cuillère... Enfin, on lui a mis la cuillère dans la bouche. Et genre, elle nous a regardé comme ça.
Bah ouais.
Genre chacune comme si c'était vraiment le moment le plus incroyable de sa vie. Et surtout, elle nous a regardé genre, mais vous sentez ce que je sens ? Et elle nous a tous et toutes checkés alors qu'il y avait 5 adultes. Et elle était là genre, oh mon Dieu, la vie va être incroyable. Et ça m'a vraiment parlé. En tout cas, je pense que j'étais ce genre de bébé, quoi.
Tu aimes manger.
J'adore manger.
T'as un restaurant coup de cœur ? Un endroit où t'adores aller ?
Oui. Il y a un restaurant à Montpellier qui s'appelle Aco, qui est que végétarien, qui fait plein de recettes végétariennes et véganes. Et c'est l'un des seuls restaurants où je suis capable d'aller seule et rester 1h30 à table juste pour savourer, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment incroyable.
On mettra évidemment l'adresse du restaurant dans la description de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter maintenant plus normalement ? Qui es-tu, Swan ?
Oui, avec plaisir. Je m'appelle Swan Périssé et je suis humoriste et productrice.
Comment t'en es venue à devenir humoriste ? Parce que t'as fait Sciences Po, j'imagine qu'à l'origine, t'avais peut-être un projet professionnel radicalement différent.
Alors en réalité, j'ai voulu être comédienne très longtemps.
Okay.
Mais bon, comédien, c'est très large. Tu peux être comédien de toutes sortes de théâtre, théâtre de boulevard, théâtre classique. T'as qu'à te balader au Festival d'Avignon, tu te rends bien compte entre le in, le off. Voilà, donc rien que sur scène, c'est un délire. Ensuite, tu peux être acteur. En tant qu'acteur, tu peux faire 10 000 styles de comédie. Donc j'avais fait des cours de théâtre par-ci par-là, on va dire, quand même en option théâtre au collège, en option théâtre au lycée.
Oui, donc tu as commencé le théâtre tôt quand même.
Ouais, voilà, je commençais, voilà, j'étais quand même, je baignais dedans, mais j'étais aussi très bonne élève. Et en fait, est arrivée l'heure des choix d'orientation, 17-18 ans. Puis ça devait être 2 mois où je voulais être comédienne, 2 mois où je voulais plus être comédienne, 2 mois où je voulais être comédienne. Et en fait, mes parents ont un peu sauté sur l'occasion où j'avais plus trop envie d'être comédienne, parce que j'étais aussi très bonne élève et ils m'ont proposé de préparer Sciences Po Paris. Et donc, c'était une très bonne école. Moi, j'adorais l'école. Ça avait l'air super intéressant et assez large pour me laisser faire ce que je voulais plus tard. Donc, j'ai fait Sciences Po. Mais dès la deuxième année de Sciences Po, j'ai continué à faire un peu de comédie au sens large. Et dès que je faisais rigoler les gens quand j'étais sur scène, j'avais un feeling. Et un jour, j'ai fait une performance dans la salle Poirel à Nancy pour un festival étudiant. Et donc, j'ai joué un truc que j'avais écrit pendant un quart d'heure. Et j'ai eu une standing ovation. Ouais. Et tout le monde a rigolé. Et j'ai dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Ok, et donc là, tu te mets au stand-up.
Ouais, à 19 ans, ouais. Vraiment très sérieusement.
Donc, t'écumes les salles parisiennes, j'imagine.
Ouais, les salles parisiennes. Et en fait, en troisième année, je suis partie à l'étranger en Caroline du Sud, donc aux États-Unis, avec mon université. Donc, moi, je suis allée de toute façon au bout de mon Master 2, parce que le temps d'avoir l'intermittence du spectacle et de transformer ça en ton métier, bah, ça prend quelques années, souvent. La plupart du temps, même parfois des dizaines d'années. Et donc, j'ai fait beaucoup de stand-up aux États-Unis aussi. Je pense vraiment que mes premières scènes...
Qu'en anglais, pas facile.
Ouais, ouais, en anglais, ouais.
T'es bilingue ou pas?
Bah, je le suis devenue en allant étudier aux États-Unis. J'étais pas mauvaise élève, mais j'étais pas bilingue avant d'y aller, quoi.
Ouais.
Mais oui, oui, j'ai encore des vidéos, je pense, de moi qui fais du stand-up en américain. Mais là où j'ai commencé à en faire... très régulièrement, quoi, plusieurs fois par semaine et tout, c'était aux États-Unis. C'est intéressant, les concours étudiants et tout.
C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve souvent que l'humour n'est pas le même dans les pays et que tu vois ce que tu penses être une blague en français n'est pas du tout forcément une blague pour les Américains.
Ah oui, tout à fait. Moi, en fait, j'écrivais pas en anglais pour le traduire. J'écrivais pas en français pour le traduire en anglais. Ouais. J'écrivais en anglais, mais quand tu vis à l'étranger, au bout de quelques mois, tu rêves dans cette langue. Tu écris dans cette langue, tu fais l'amour dans cette langue. Et donc, la comédie devient plus facile à écrire.
Bien sûr.
Mais il y a un truc que j'ai remarqué en écrivant du stand-up en Caroline du Sud et plus tard à New York, parce que je suis repartie plus tard 3 mois à New York, qui est le maximum du visa que tu peux avoir aux États-Unis. En 2015, je crois, je suis partie 3 mois refaire du stand-up, mais que dans la ville de New York. J'ai remarqué qu'en fait, c'est presque plus facile de faire du stand-up quand t'es étranger ou étrangère au pays dans lequel tu vas, parce que t'as un regard très neuf sur des choses qui paraissent normales aux habitants. Et en fait, c'est l'idée de faire... Enfin, quand tu fais du stand-up à Paris, il faut retrouver ce regard de fraîcheur, de curiosité, pour retrouver l'improbable dans ce que toi, t'as emmagasiné comme étant classique, banal, etc. Pourquoi est-ce qu'on se moque des humoristes qui font tout le temps des blagues sur le métro? Tu sais, il y a le cliché des mauvais humoristes qui font des blagues sur le métro. C'est que n'importe qui n'habite pas à Paris débarque dans le métro. C'est un endroit, un moyen de transport où il y a tellement de violence qui a été intériorisée, en fait, tellement de saleté qui est OK pour tous les Parisiens, que quand t'arrives là-bas, bah, t'es obligé de faire des blagues sur le métro, tu vois. Et donc, il faut retrouver ce regard un peu de l'étranger, quoi, quand t'écris de la comédie.
Est-ce que ton humour était politique et engagé dès le début?
Eh ben, écoute, je pensais que non. Mais en stand-up, là, récemment, je suis retombée sur des vannes que je faisais quand j'étais à New York, donc en 2015 quand même. Et c'était déjà des blagues sur l'avortement, sur le viol, tranquille. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de féminisme dès mes 20-21 ans, ouais.
Ok. Tu as vécu ensuite dans une caravane 2 ans pour aller à la rencontre des abonnés de ta chaîne YouTube. Comment t'as vécu c'est en sorte de minimalisme, t'es revenu à l'essentiel, t'en as eu besoin? Comment ça s'est géré
En fait, j'avais envie de quitter Paris, mais je savais pas où je voulais vivre parce que les seules expériences que j'avais eues en dehors de Paris, bah, c'était soit dans un campus surprotégé à l'étranger, aux États-Unis. Enfin, c'est pas le truc le plus dépaysant du monde, tu vois. Tu passes d'une ville à l'autre, bon, c'est pas non plus la grosse aventure. soit ouais, en voyage, en touriste pur. Mais donc, c'est bête, mais quand tu as grandi à Paris, dans une ville, dans un appartement que tu ne sais pas bricoler, etc., tu ne sais pas trop vivre à la campagne, quand tu n'as pas ton permis, bricoler, faire du potager, etc. Et j'avais eu une expérience aussi à la montagne, parce que j'avais eu un amoureux à la montagne qui, lui, savait tout faire, rénover son appart, faire son potager, etc. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre à faire tout ça, mais je ne sais pas où aller, quoi. Je savais pas où aller, je me sentais pas d'aller à la montagne toute seule.
Parce que avec quel âge ?
J'y vais presque en haute montagne. J'avais. Quand j'étais un peu à la montagne ?
Ouais.
Oh, je sais pas, de 26 à 28.
Enfin, quand tu lances cette
chaîne. Ah, quand je lance la chaîne, ouais, à 29 ans, ouais. Okay. 29 ans.
Okay.
Et à ce moment-là, donc, je me suis dit, je vais aller apprendre à faire des choses à droite, à gauche. Et donc, comment je peux le plus découvrir d'autres modes de vie différents, c'est en allant un peu chez les gens, mais en même temps sans leur foutre la pression. Donc, je vais plutôt vivre dans leur jardin que dans leur salon. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis partie avec une caravane qui appartenait à mon grand-père. Et oui, j'ai adoré ce minimalisme. Je pense qu'aujourd'hui, on s'enferme avec le matérialisme. Alors, c'est un choix luxueux, hein, que tu peux être minimaliste quand tu as les moyens de te racheter... une cuillère en bois par-ci, un vêtement par-là, quand tu oublies tes trucs à droite à gauche en France. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont coincés parce qu'ils ont contracté un emprunt pour pouvoir rembourser leur maison. Ils sont coincés parce qu'ils ont des tonnes de talons et ils ont besoin d'une grande armoire. Enfin, je caricature, mais c'est vrai que le minimalisme, moi, ça m'a beaucoup plu, quoi. De passer de 160 litres de consommation par jour d'eau, hein, je parle pas d'alcool, à t'as besoin de 30 litres max pour manger, faire ta vaisselle, etc. Tu peux te baigner dans une rivière, tu as besoin de 2-3 vêtements, c'était très satisfaisant. Ouais. Et moi, je l'ai très bien vécu, j'ai trouvé cette aventure incroyable, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu plein de modes de vie différents qu'on pouvait avoir en France, j'ai appris à bricoler, j'ai appris à tous les gestes possibles individuels que tu peux faire en écologie. Mais par contre, je suis sortie vraiment épuisée de là, quoi. Donc, le minimalisme, la petite caravane qui, normalement, sert à 2-3 week-ends l'été, mais que dans laquelle tu passes 2 hivers de suite, c'est quand même ouais. Très, très intense physiquement, quoi.
Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que tu as percé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette Swens périssée qui, par rapport à d'autres...
Je pense que c'est pas à moi de le dire, mais moi, je sais que j'ai beaucoup persévéré, quoi.
Ok.
Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne me pose pas souvent cette question parce que déjà dans l'imaginaire collectif de beaucoup de personnes, je n'ai pas percé, même si moi, je suis hyper satisfaite parce que je remplis toutes mes salles de spectacle, c'est complet partout, je fais des vues sur Internet, j'arrive à faire mes projets comme je veux. Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, donc en fait, tout le chemin reste à faire, entre guillemets. Mais je pense que j'ai persévéré, quoi. J'ai connu beaucoup, beaucoup d'échecs. Plein de trucs humiliants en tant qu'humoriste, beaucoup de projets qui n'ont pas marché, ni en vue, ni en argent. Aujourd'hui encore, je suis productrice parce que j'aime bien pouvoir me permettre d'investir beaucoup d'argent sur des trucs où je me dis ça, j'y crois à fond. Et puis en fait, c'est vraiment perdre de l'argent, mais je gagne de l'argent ailleurs, etc. Ouais, ouais. C'est vraiment ça qui me plaît dans la production, c'est pouvoir prendre des risques financiers.
T'es entrepreneuse au final.
Ah ouais, je suis entrepreneuse. Hein. J'ai une entreprise depuis 6 ans, j'ai eu plein de salariés et tout.
On va parler évidemment des enjeux écologiques et de la place de l'alimentation. Quelle place elle joue pour toi, l'alimentation, dans cette lutte écologique que tu portes aussi ?
Pour moi, elle est essentielle. C'est là qu'est né mon éveil à la sensibilité écologiste, écologique. En gros, moi, je vendais des légumes sur les marchés quand j'avais besoin de sous, quand j'étais starving artist, comme on dit. Il n'y a pas d'expression en français, mais ça veut dire mot à mot artiste qui meurt de faim. Donc, je vendais des légumes. Et puis là, je me suis rendu compte que un coup de froid, il n'y avait plus d'épinards. S'il faisait moins 10, il fallait mettre des couvertures sur les endives avant même de les mettre sur nous, les vendeuses. Je vendais directement les légumes avec les productrices. Donc, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur comment pousse l'alimentation. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que 4 saisons, mais plein de saisons, quoi.
C'était où, ça ? C'était à Montpellier ?
Non, c'était à Paris.
OK.
Je travaille avec des productrices normandes qui n'aiment pas trop qu'on fasse leur promo.
D'accord.
Mais je suis très reconnaissante de tout ce qu'elles m'ont appris. Les légumes et les fruits du début du printemps ne sont pas les légumes et les fruits de la fin du printemps. Parfois, on avait des pêches de vigne, ça durait 2 semaines. Parfois, on avait trop de... n'importe quoi, de métulon. C'était des espèces de concombres du Kenya qui poussaient en Normandie, hein, mais qui venaient du Kenya. Et parfois, on avait trop de courges, enfin, j'en sais rien, quoi. Parfois, il y avait une maladie sur les légumes. Ça faisait qu'ils étaient encore délicieux, mais moins jolis. Donc, les clients les achetaient moins. Je me disais, attends, c'est incroyable, toute cette nourriture gâchée, parce que juste visuellement, c'est un peu moins sexy. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça et vu que c'était un parcours direct, quoi. C'était directement les productrices qui vendaient à leurs clients. J'ai bien vu la différence entre ça et les supermarchés. Voilà, donc pour moi, c'est essentiel parce que moi, ça m'a touchée à ce moment-là. Mais c'est aussi essentiel parce que c'est dans le quotidien des gens. Pourquoi aujourd'hui les gens mangent moins de viande rouge? C'est aussi parce que c'est cher, c'est aussi parce que c'est mauvais pour la santé, c'est aussi parce que il devient plus facile de cuisiner facilement des choses végétariennes, etc. Donc ne pas prendre l'avion, si tu veux, les gens ils ont du mal à pas le voir comme une contrainte, placer ses économies sur un autre compte en banque, le temps que ça rentre dans la tête et que les gens se disent une démarche administrative d'argent que je touche jamais, que je vois jamais, c'est important, alors que changer son assiette, en faire des assiettes colorées, festives, délicieuses, parler directement à son producteur quand t'achètes, se sentir en meilleure forme d'une semaine à l'autre, c'est des choses qui ont un impact direct sur ta vie, sur ta santé, sur ton porte-monnaie. Et donc, c'est vraiment des leviers très puissants, quoi.
Et pour autant, ça met du temps à bouger, tu vois, la question de la viande. Alors certes, de plus en plus de personnes se disent flexitariennes ou même végétariennes. Mais à côté de ça, on a aux dernières élections politiques des personnalités qui parlent de la côte de bœuf à tous les repas, etc. Tu vois, ça, il y a quand même une France, une partie de la France en tout cas, qui est hyper ancrée et attachée à la consommation de la viande, à ce genre de choses. Comment t'analyses ça, toi ?
Moi, je pense que tu dois en savoir plus que moi, mais je pense que dans ces choses-là, il faut toujours faire attention à l'imaginaire collectif. Et la réalité des faits, est-ce qu'il y a plus de végétariens, plus de véganes et tout? Bon, je te dis ça, mais je sais que la réalité des faits, c'est qu'il n'y a pas plus de végétariens et plus de véganes. Mais il faut faire toujours attention parce que, en fait, aujourd'hui, surtout avec les algorithmes, moi, j'ai l'impression qu'il y a des écolos partout, tout change, etc. Hein. Mais donc, plutôt que dire attention, il y a des politiques qui parlent d'entrecôte et tout, je pense qu'il faut toujours regarder les chiffres. En l'occurrence, il y a eu des enquêtes d'Ipsos combinées avec des enquêtes Google. Je ne suis pas censée avoir ces infos, mais je les ai. Et en fait, les Français ne mangent pas moins de viande et ne sont pas plus véganes. C'est terrible. Mais voilà, donc tu vois, je me fais l'avocat du diable, puis je vais dans ton sens. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher la lutte. Et j'en parlais avec Jean Covici. J'ai des potes pas mal placés dans le milieu de l'écologie, mais qui disaient aujourd'hui pourquoi les gens prennent plus le vélo, parce que ça leur fait faire du sport, parce que ça, c'est plus rapide, parce que c'est stylé auprès de leurs copains, parce qu'ils respirent, parce qu'ils prennent le soleil, parce que c'est bon et pour la santé, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut s'acharner. Je pense que il y a 5 ans ou plutôt 10 ans, les végétariens étaient vus comme des gens pas lots, en mauvaise santé. Aujourd'hui, c'est vraiment manger du saucisson à tous les repas qui représente un danger. Et je pense que dans les imaginaires, c'est en train de changer. Les gens en prennent conscience. Il y a de plus en plus de cancers qui sont liés directement à la consommation de certains produits, que ce soit les produits transformés ou la viande transformée. Donc je pense qu'il faut rien lâcher, quoi. Ouais. Les progressions sont lentes, on le sait, hein, c'est la plus grosse angoisse de l'adaptation d'ailleurs au réchauffement climatique, c'est que le réchauffement climatique, c'est une chose, le fait que les humains ne seront pas prêts, nos civilisations ne seront pas prêtes à s'adapter, c'en est une autre. Donc oui, c'est long, mais c'est comme le féministe, tu vois, la différence entre le Bien début sûr. De MeToo et aujourd'hui en 2024, les imaginaires collectifs amène Macron, on verra ce qu'il en est, mais à dire qu'il faut une définition du consentement dans la loi. Il y a des MeToo qui pètent, la loi change. Bien sûr que c'est lent, mais je pense qu'il faut rien lâcher, quoi.
Comment tu reçois la crise agricole actuelle, tu vois? Parce qu'il y a on essaye de porter ces enjeux d'alimentation durable. Il y a ce que vivent les éleveurs et les agriculteurs en quotidien. Qu'en plus tu les connais, tu les as côtoyés. Comment tu l'as ressenti?
Pour moi, les agriculteurs, ils prennent la solution la plus rapide qu'on leur offre. Et aujourd'hui, c'est des changements drastiques qui doivent être incités par des décisions politiques et financières qui leur sont pas offertes. Donc, je trouve que vainement, les agriculteurs ont été... on a essayé de monter les écolos contre les agriculteurs et les agriculteurs contre les écolos au moment de la crise agricole, qui continue d'ailleurs. Hein. C'est juste que les plus gros ont eu ce qu'ils voulaient, mais il y a plein d'agriculteurs qui continuent. On a vu ce qui s'est passé au salon de l'agriculture, alors qu'on va dire que la lutte symbolique, les routes bloquées et les énormes dangers, notamment pour Paris, se sont ralentis, mais la lutte agricole, elle continue. Bah, en fait, il y a plein de voies. Hein. La voie paysanne, elle existe. Donc, en fait, moi, je pense que les écolos, ils ne sont pas du tout anti-agriculteurs. Les agriculteurs, ils ne sont pas du tout anti-écolos. C'est juste qu'aujourd'hui, je donne un tout petit exemple parmi tout, parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%, mais la politique agricole commune, elle doit financer les transitions, elle doit financer les petites exploitations. Il faut une énorme transition globale et ça doit être fait par des incitations financières, pratiques, au quotidien, au jour le jour. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a enfin, les agriculteurs, ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir mieux faire pousser, etc. On les force à emprunter, je caricature, hein, mais on les force à emprunter, à utiliser des pesticides, à rembourser leurs emprunts, à acheter des nouveaux tracteurs. Bah, bien sûr, qu'ils vont pas vouloir qu'on leur mette des contraintes phytosanitaire, enfin sanitaire en tout cas, ou écologique, et bien sûr qu'ils vont vouloir continuer à utiliser des pesticides qui fonctionnent mieux. Alors que si on les aide à régénérer leur sol, à travailler main dans la main, et est-ce qu'on leur donne des sous pour faire ces transitions, bah c'est ce qu'il faut faire, quoi. Voilà.
Et en parlant de contraintes, est-ce que toi, tu le vis comme une contrainte, cette injonction à l'alimentation durable, à manger moins de viande? Tu le dis, j'essaye de devenir végétarienne, j'y arrive pas, j'ai envie de manger des nuggets. C'est une contrainte au quotidien ou pas?
Non, pas du tout, parce que bah, je vois bien que... Enfin, moi, ce qui me fait souffrir, encore une fois, c'est que les choses qui sont ouvertes à pas d'heure, c'est les pires enseignes de fast-food. Bah, je dis ça parce que, bon, c'est peut-être pas votre quotidien, mais moi, je sors souvent de scène à 23h, 23h30. Et donc là,
Et t'as faim.
Voilà, on peut sentir que la souffrance est présente. Non, c'est pas du tout une contrainte. Non, au contraire, c'est une contrainte d'avoir de la fast-food et du plastique partout et de parfois désespérément devoir manger des tomates en hiver parce qu'on présente que ça dans les stands des enseignes qui sont ouvertes et que on n'a pas éduqué les gens à acheter du panais et des navets, quoi. Je caricature, mais et aussi dans le quotidien, on n'a pas le temps de cuisiner, en fait.
Ouais, bien
les
sûr.
Gens, ils seraient ravis de manger des fruits de saison, des légumes de saison, s'ils avaient le temps de cuisiner, s'ils n'étaient pas contraints à faire décongeler des trucs parce que notre modèle de société nous oblige à travailler entre 35 et 70 heures par semaine pour certaines, sans compter les tâches ménagères majoritairement pour les femmes. C'est pas ce que je souhaite, mais c'est la réalité des faits, quoi. Donc moi, je ne le vis pas comme une contrainte, surtout que je me sens beaucoup mieux en santé quand j'ai mangé mes noix de cajou. Alors attention, je sais que les noix de cajou, c'est très, très mal produit, c'est pas en France, mais je me sens en meilleure santé quand je mange mes cerneaux de noix et mes kiwis cueillis en France, voilà, que quand je suis obligée de manger des trucs dégueux, quoi.
Tu as fait un jeûne aussi pendant une semaine. J'ai pu voir une magnifique vidéo sur les réseaux sociaux où tu en parles. Qu'est-ce qui t'a poussée à le faire et qu'est-ce que t'en as tiré?
Bon, j'avais toujours rêvé de faire ça. En fait, moi, j'aime beaucoup challenger mon corps. Je fais beaucoup de challenges sportifs. Bon, je suis obligée de dire maintenant que je suis sportive parce que ça fait quand même le 10e challenge sportif que j'accepte. Donc, je vais arrêter de dire que je suis pas sportive, mais disons que je suis pas le cliché de la sportive qui fait du sport tous les matins, etc. Et j'ai quand même fait Paris-Copenhague à vélo, donc ça fait 1600 kilomètres. Même le mec qui m'a vendu le vélo, alors qu'il voyage depuis 20 ans à vélo, il m'a dit « bah, j'ai jamais fait ça, donc bon courage, quoi ». Voilà, j'ai appris l'escalade, j'ai fait de la grande voie au bout de 2 mois et demi d'entraînement. Encore une fois, je grossis les traits, mais voilà. Et donc, j'aime bien challenger mon corps, quoi, voir comment tout à coup, je deviens très sportive, tout à coup, je perds 10 kilos, tout à coup, j'apprends à faire du vélo, de l'escalade ou des sports d'adrénaline énormes. Et donc, pour moi, le jeûne, c'était sûr que ça allait me plaire, c'était sûr que ça allait détoxifier mon corps, c'était sûr que ça allait apaiser mon rapport à l'alimentation et tout, et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai détesté, j'étais très malheureuse. C'était pas rigolo, je me suis pas fait de copains, j'ai pas développé des trucs dans mon corps, si ce n'est des troubles du comportement alimentaire, parce que ça va, hein, je l'ai bien géré, mais j'avais envie de bouffer tout le temps, ça m'a créé plein de frustrations qui sont restées quelques mois, quoi. Après, ça a disparu vite, mais voilà, j'ai rien appris, franchement, ça m'a saoulé, j'avais mal aux muscles, j'avais mal aux os.
Ah ouais.
Je trouvais ça horrible. Voilà. C'est mon expérience, hein, je dis pas que c'est.
Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir cette expérience parce que on a, dans ce podcast, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a enregistré avec Angèle Ferremey, qui est une chef engagée, qui parle, elle, quand tu l'entends parler du jeûne, t'as envie de jeûner demain, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, moi aussi j'avais envie de faire ça.
Elle te promet une révélation
aussi, quoi. Mais bon, après le jeûne intermittent, je trouve ça vachement intéressant.
Ouais.
Ça m'est arrivé de faire un gros rééquilibrage alimentaire et de manger légèrement le soir. Et en fait, de pouvoir arriver à cette sensation où tu te dis, bah, ce soir, j'ai pas besoin de manger, c'est super. Et voilà. Mais en fait, personnellement, avec le mode de vie que j'ai et que beaucoup de gens ont malheureusement, arrivé à cet état où tu peux vraiment sentir ta satiété, vraiment t'arrêter quand tu manges du sucre, sentir que c'est pas bon pour toi, avoir le palais qui brûle dès que tu prends un truc qui est pas bon pour toi et tout. J'en suis très loin dans mon mode de vie actuel et ça arrive à beaucoup de gens et tout. Il y a eu des phases dans ma vie, notamment pendant les confinements où je faisais partie des privilégiés qui, je faisais 3 heures de sport par jour, je dormais 10-12 heures, j'étais dans une maison de vacances chez des amis. Là, j'ai pu faire la meilleure alimentation possible. Mais c'est pas du tout le cas dans mon mode de vie aujourd'hui. Et donc, le jeûne, en fait, je pense, doit arriver quand déjà t'as fait un grand chemin de culture, d'alimentation, de connaissance de toi, etc. Et je trouve ça dangereux quand tu sors comme ça d'une vie à toute allure, de tout à coup radicalement faire cette transition. Le jeûne intermittent, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant.
Non, mais c'est intéressant de le dire, tu vois, parce que on a interrogé aussi une nutritionniste dans ce podcast qui disait moi, le jeûne, quand même, ça met ton corps à rude épreuve. Je suis pas sûre, tu vois, de ce truc-là. Je suis pas sûre que tu en sortes bénéfiquement, quoi.
Ouais, j'en ai parlé avec un médecin qui avait quand même regardé toutes les recherches récentes, mais encore une fois, les auditeuristes de ce podcast, et toi, vous devez mieux le savoir que moi, mais en gros, il disait c'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand c'est pas long et c'est pas bon non plus, quoi. Voilà, c'est une expérience, c'est intéressant, mais il disait l'un et l'autre ne sont pas prouvés, quoi.
Ouais.
Moi, je trouvais, enfin, j'ai confiance en lui.
Ouais, c'est clair. Là-dessus. Tu parles beaucoup de rapports sexuels dans tes vidéos aussi. Est-ce que tu vois des liens.
Rapports sexuels.
Est-ce que tu vois des liens entre alimentation et sexe?
À part la chantilly ou le chocolat fondu, éventuellement les frites.
Non, mais tu vois, on parle d'orgasme culinaire.
Non, qu'est-ce que je pourrais confier? Je me souviens très bien que lors de ma... attention, dossier, j'ai déjà mis de ça à personne dans aucune interview. Mais je me souviens que la première fois que j'ai fait l'amour, j'étais jeune adolescente. Et on avait fait l'amour toute la nuit avec un super garçon. Et il m'avait apporté des assiettes de melon et de pastèques entre les rapports. Et j'avais trouvé ça génial. Donc voilà, donc peut-être le plaisir d'un été avec beaucoup de chaleur et de bienveillance et de respect mutuel était connecté à la pastèque et au melon un peu dans ma tête. Mais je sais pas s'il y a un rapport, si ce n'est quand on se sent bien dans son corps, ce qui est souvent connecté à une bonne alimentation, mais surtout un bon sommeil. Entre toi et moi.
Oh, mais les deux sont connectés.
On est plus libérés dans le sexe, mais ça va aussi avec le stress, contre le stress plutôt, avec être bien dans sa vie perso, etc. Donc,
mais quand tu as une vie à 1000 à l'heure comme toi, tu arrives à te poser, bien dormir. Enfin, tu vois, je trouve ça très dur, moi, d'arriver à une journée.
C'est ma priorité,
Okay.
En gros, entre, je vais dire, bien dormir, bien manger, faire du sport, avoir une vie amicale et une vie amoureuse, ma priorité, c'est le sommeil, quoi. Donc, quand j'ai passé une journée à 1000 à l'heure et que je suis là, genre, qu'est-ce que je pourrais faire? L'amour? Me faire des poireaux? Ou dormir? Je vais manger un burger et dormir, quoi. Ouais. Un burger végé, bien sûr. Mais enfin, tu vois, donc c'est vraiment ma priorité. Je suis obligée, sinon j'arrive pas du tout à
enchaîner, quoi.
Ouais, voilà. Mais bon, l'alimentation et le sexe, je sais pas.
T'as envie d'avoir des enfants?
Non.
Ok. C'est parce que la question du sommeil, du coup...
Oui, je pense que c'est vachement connecté. C'est notamment pour ça que je me dis que j'arrive jamais à avoir des enfants, quoi.
Non, vraiment, moi, c'est pas pour des raisons écologiques.
Deux nuits à 6 heures de sommeil, c'est... Je pense que je suis au bord de la tachycardie. Je suis capable de m'asseoir et de faire le cinéma. Genre, je pense que je vais défaillir et tout. Alors que j'étais pas comme ça. De mes 23 à mes 29 ans, j'étais surmenée. Mais là, j'ai vraiment... Enfin, j'encaisse la vieillesse et je... Je sens que j'ai besoin de ça et j'ai décidé d'en faire une priorité. Ouais.
Ton humour, il est fortement empreint de féminisme et d'écologie. Est-ce que tu te décrirais comme écoféministe?
Tout à fait.
Ok. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça?
Un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, que j'ai écouté, qui a vraiment été vraiment l'un des piliers fondateurs de mon féminisme. Je dirais que c'est vraiment via le podcast que je suis devenue féministe, via le podcast qui s'appelle Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Le podcast qui s'appelle Un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Et le podcast La Poudre, bien sûr, de Lorraine Bastide. Et un podcast à soi. En fait, il y a eu 2 épisodes sur l'écoféminisme et je suis tombée des nues. Il y en avait un qui était sur la lutte politique. Je crois que c'était des femmes à Bure qui se mobilisaient contre le projet nucléaire énormissime qu'il y a là-bas, un projet d'enfouissement nucléaire, donc un truc considérable. Je ne sais pas s'il y a eu des projets aussi ambitieux nucléaires dans le monde entier, quoi. C'est vraiment un délire. Donc ça, c'était intéressant. Et il y a eu un reportage sur des femmes qui s'étaient constituées en communauté en Ariège. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est incroyable, quoi. Et donc, ça m'a interrogée sur le capitalisme et à quel point c'était lié aussi au masculin, la compétition, la comparaison, la virilité, vouloir être plus fort, plus grand, plus... Voilà, et lié à l'indépendance des femmes, quoi. J'ai trouvé ça bouleversant. Donc, je ne pourrais pas plus donner de détails, mais je vous encourage à l'écouter si
ça
vous intéresse.
Est-ce que c'est ça qui t'a convaincue d'essayer de devenir végétarienne ?
Non. Non, végétarienne, je suis vraiment devenue végétarienne quand, en fait, j'avais pas d'argent et je travaillais au marché. Donc, j'avais accès à des légumes aussi délicieux les uns que les autres. J'ai appris à faire des galettes, des gratins, des soupes, des potages, des entrées, des salades d'hiver et tout. C'était tellement divers et varié. Puis j'avais ces légumes gratuitement grâce à mes super patronnes. Et puis de temps en temps, une semaine sur deux, elles me donnaient une cuisse de poulet ou les voisins des œufs ou quoi. Et donc, je me suis très bien rendu compte que j'étais en pleine forme, quoi. Bah, ça fait partie de l'une des périodes de ma vie où j'ai perdu 10 kilos parce que j'étais debout. Je travaillais que 4 jours par semaine, mais debout de 6 heures du matin à 14 heures, tu vois, tu charbonnes. J'y allais en roller à 5 heures du mat à l'autre bout de Paris. Je faisais une heure de roller pour y aller. J'étais en pleine forme, quoi. J'étais vraiment en pleine forme. Donc, j'ai bien vu que non seulement c'était délicieux, divers, varié, mais que j'avais pas besoin de plus que une cuisse de poulet toutes les deux semaines, quoi.
Et il y a eu des raisons écologiques, j'imagine, quand même.
Oui, voilà. Après, en parallèle, je me suis rendu compte que de la consommation d'eau d'une vache, de la pollution, qu'un steak du Limousin en termes de CO2 polluait autant qu'un steak qui venait du Brésil, que c'était pas le transport des aliments, de la viande qui faisait son bilan carbone, mais plus l'élevage des animaux. Et on peut choisir de manger plus un steak du Limousin pour plein de raisons valables, bien notamment sûr. Des raisons écologiques, de soutien de l'agriculture française, etc. Mais je parle en termes de bilan carbone. Mais non, en fait, sur Vert chez vous, j'ai fait une expérience qui s'appelait 21 jours vegan. Et en fait, c'était une excuse pour faire une enquête sur qu'est-ce qui est vraiment polluant. C'est là que je me suis aperçue que, par exemple, le chocolat, le café... La production, enfin en tout cas la consommation de chocolat et de café polluait presque autant que la consommation de porc ou de bœuf, quoi. Donc ça m'a fait halluciner, par exemple. Je le savais pas, mais psychologiquement les gens sont pas prêts,
c'est clair.
Mais ou même de fromage, quoi, que finalement voilà. Donc là j'ai fait une véritable enquête pendant en réalité plusieurs mois de recherche pour seulement 21 jours sans manger quoi que ce soit d'animal. D'ailleurs, j'ai fait des écarts sans faire exprès, je les ai filmés, c'était hyper drôle. Vous pouvez aller voir cette vidéo sur ma chaîne. Ça s'appelle 21 jours vegan. À un moment, je mange des roses des sables et je demande la recette à ma copine Louane qui m'a fait ça. Elle m'a dit « c'est du chocolat vegan », ce qui veut dire du sucre en fait. « C'est du chocolat vegan avec du lait ». Et je suis en train de manger les trucs, je fais « comment ça, du lait ?» Et donc on se regarde, on éclate de rire vraiment. Bon voilà, donc j'ai fait des écarts quand même. C'est pas l'idée de pas faire d'écart, quoi. Bref, tout ça pour dire que là ça a été une véritable enquête et je me suis rendu compte que les véganes, on va dire que c'est les citadins les plus courageux, je trouve, dans leurs initiatives individuelles, si en plus ils prennent pas l'avion,
c'est clair,
que les autres. Après, il y a plein de gens qui font des écolieux, etc., qui se constituent en communauté, mais c'est plus à la campagne, quoi. En ville, si t'arrêtes de prendre l'avion et que t'es vegan, pour moi,
Ton bilan carbone, il est
franchement
drastique.
Tu gères, quoi.
Ouais, c'est clair.
Beaucoup d'admiration pour les vegans.
On a beaucoup d'influenceurs ou de, je sais pas si on peut dire d'artistes, mais oui, en tout cas d'influenceurs qui ont du mal à prendre la parole sur les questions écologiques. Qu'est-ce que tu leur dirais pour que tout le monde prenne la parole sur ces questions-là?
On n'a pas le temps d'être parfait pour en parler. Je pense notamment à un ami à moi qui a été marié très longtemps avec une femme dont la famille était dans les dom-toms. Et donc, lui, il prenait régulièrement l'avion, mais il avait envie de partager des pétitions pour la protection de l'océan. Je lui ai dit, fonce, quoi. Enfin, tu vois, personne n'est parfait, fonce, quoi. Et les influenceurs, influenceuses... je dirais, on va pas y arriver sans vous, quoi. C'est même dit dans les rapports du GIEC, hein, que les gens qui ont de l'influence, on a besoin d'eux pour véhiculer des images positives de l'écologie, pour entraîner tout le monde et tout. Et donc, moi, je peux inciter tout le monde à faire son propre bilan carbone. Quand tu te rends compte que si t'avais pas pris tel ou tel avion, aujourd'hui, pour ralentir les conséquences du réchauffement climatique et de faire en sorte qu'on ne dépasse pas les limites planétaires, ce qui est vraiment mal barré, il faudrait qu'on soit à moins de 2,8 tonnes de de bilan carbone par personne par an. Et les influenceurs sont facilement à 50 tonnes, quoi. Donc.
Ouais. Ouais. 50 tonnes, putain.
Ouais. Facilement, hein.
Ouais.
Ouais.
On en arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est quelle est la chose qui te met le plus en colère ?
Je pense que la chose qui me met le plus en colère en ce moment, c'est vraiment les mensonges du gouvernement Macron. Ça me rend dingue parce qu'en fait, les gens, ils perdent confiance en l'élection, en la démocratie en général. Le pouvoir exécutif dit tout et son contraire d'une semaine à l'autre, font des promesses pour les retraités qui ne tiennent plus, font des promesses pour les agricultrices qui ne tiennent plus, font des promesses écologiques qui ne tiennent plus. Donc tout est devenu communication et mensonge. Et donc malheureusement, je trouve que les Français, ils perdent foi en la démocratie. Et donc il y a une montée des extrêmes. Et pour moi, c'est ce qui va amener à un fiasco écologique. Et à la montée des extrêmes et donc à la guerre.
C'est clair.
Donc je pense que c'est ce qui m'énerve le plus, ouais.
Si tu avais justement une mesure politique ici à prôner pour une alimentation plus durable, ce serait quoi ?
Alors je pense qu'il faudrait creuser le programme. Enfin, ce qu'est en train de faire Audrey Pulvar, c'est super intéressant. Elle est adjointe au maire, je le dis, parce que j'ai fait un footing avec elle la semaine dernière. C'est complètement intéressé, mais c'est super intéressant de voir comment les politiques ont vraiment les mains dans le cambouis et essayent vraiment de promouvoir, par exemple, une agriculture, une alimentation bio partout. Ce qu'a obtenu Fatima Wasak aussi, d'avoir des options végétariennes à la cantine. Je pense que la norme devrait devenir les repas végétariens et l'exception, les repas avec de la viande. Donc, je pense que dans tous les restaurants, on devrait apprendre à proposer des repas végétariens délicieux. Et par exemple, si tu prends, il y a un repas à la carte avec de la viande, tu vois, sur 10, et c'est le plus cher, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc en fait, moi, je pense que, enfin, désolée, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, s'il y avait une mesure, s'il y avait quelque chose que je devrais prôner, c'est on mange beaucoup moins de viande et on en mange de la délicieuse, de la bien produite par des agriculteurs, comme il y en a, je crois, 5 ou 6% en France qui traitent leurs animaux du mieux possible et bio et avec des races rares. Enfin voilà, bon là je caricature un peu, mais voilà, je pense qu'il faut inciter à produire la viande de la meilleure façon possible en France.
Ce que j'entends, c'est que du coup une taxe punitive par exemple, ce serait intéressant pour que les produits...
Je suis pas politique et je connais pas assez le sujet, mais c'est ce qu'il faut faire en tout cas, c'est ce qu'il faut viser d'une façon ou d'une autre.
Ce que tu préfères dans ton métier?
Je peux dire deux choses ?
Ouais, bien sûr.
Écrire et jouer.
Ce que tu aimes le moins ?
Les tableaux Excel pour produire des énormes projets, genre il n'y a plus de saison.
Ta plus grande fierté ?
J'en ai deux.
Ouais.
Je pense que ma plus grande fierté, c'est mon spectacle Calme, donc qui parle de colère, que je joue donc au Palais des Glaces, mais je pense que quand ce podcast sort, je serai en tournée. Donc ça, c'est vraiment une grande fierté. D'ailleurs, je reprends au théâtre Édouard VII en septembre 2024. Et peut-être à l'Olympia plus tard.
Oh là là !
Et donc ça, c'est une grande, grande fierté. Ça, c'est une grande fierté. Et mon autre grande fierté, je pense, c'est que j'ai une rupture amoureuse il n'y a pas longtemps qui s'est très bien passée, où il y a encore beaucoup d'amour et j'ai l'impression que j'ai appris à aimer en amitié ou en amour... Et à désaimer sans détester.
Sereinement.
Ça, c'était un grand pas. J'ai l'impression qu'on nous apprend aujourd'hui qu'on doit soit aimer, soit détester. Que les ruptures doivent être tonitruantes et que c'est forcément l'amour ou le désamour. Et en fait, je pense qu'il y a plein de façons d'aimer différentes qui ne sont pas l'amour romantique, mariage, signature. Et ça me fait grandir vraiment au quotidien.
Qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire ?
Rien.
Ok, cool. Ta blague préférée qui marche à tous les coups?
Mais elle est visuelle. Mais bon.
Bah, on a une vidéo.
Je vais faire l'audio guide. Je me suis beaucoup interrogée sur la notion de consentement récemment et je me suis rendu compte que le consentement chez certains hommes, c'est pas acquis, genre. Vous avez entendu ou pas? J'ai dit chez certains hommes. Non, mais je le dis parce qu'après, je vais recevoir des messages Oui, mais moi, ni 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 ni, moi. Et là, pour l'audio guide, vous voyez pas, mais je fais comme si je tapais sur un clavier avec mes deux index. Et là, je dis, pour moi, tous mes haters, ils ont un tout petit PC à la maison. Ils sont là, moi. Il y a que trois lettres sur le clavier, M-O-I. Moué, mimi, mimi. Ça me fait beaucoup.
Tu nous as dit que tu aimais cuisiner. Est-ce que tu as une recette à partager pour nos auditrices, auditeurs?
Oui, avec plaisir. Je trouve que ce père, la béchamel, hier soir, j'ai fait à 1h du matin, parce que j'ai un rythme décalé, j'ai fait un gratin de chou-fleur à la béchamel. Et ça peut se faire avec du lait végétal. Malheureusement, je ne crois pas que ça peut se faire avec du beurre végétal. Il faudra demander aux véganes. Mais en gros, il faut apprendre à faire un roux, donc c'est hyper simple. Tu mets de la farine et du beurre dans une poêle à feu doux. Tu mélanges jusqu'à ce que ça fasse une petite pâte. Moi, je compte jamais combien je fais quoi. Je fais au feeling. Et après, tu rajoutes du lait, soit du lait végétal, soit du lait pas végétal. Tu mélanges à feu doux, tu mélanges. Tu rajoutes du sel, du poivre et de la noix de muscade. En parallèle, tu fais cuire ton chou-fleur dans de l'eau. Puis, tu essores ton chou-fleur, tu le mets dans un plat. Tu mets la béchamel, tu mets du gruyère râpé ou du fromage vegan râpé. Et tu le mets genre 20 minutes au four. C'est vraiment que du feeling, c'est délicieux. Ça me rappelle mon enfance et ma maman.
Est-ce que tu as un conseil de lecture de film à donner?
Je conseille à tout le monde de regarder le film qui s'appelle Woman at War. C'est disponible en location sur Arte TV. C'est exceptionnel.
Explique-nous, c'est quoi?
C'est l'histoire, c'est une fiction. Donc c'est vraiment un film d'une histoire qui n'a pas existé. Mais qui est l'histoire d'une militante islandaise qui en fait sabote des énormes centrales électriques avec un arc et des flèches. Et donc, toute sa vie est orientée autour de ça. Jusqu'au jour où elle peut adopter un enfant. Et donc, c'est la meuf la plus recherchée de tout le pays, quoi. Et en fait, le film est incroyable. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans tout le film, quand elle arrive à s'échapper, parce qu'on la cherche avec des drones, avec des équipes, c'est vraiment un film d'aventure et elle est sauvée par la nature. À chaque fois, elle se cache derrière un cadavre de mouton. À chaque fois, elle sent la mousse et la terre. Il y a un drone qui repère la chaleur. C'est vraiment un film d'action entre elle et la nature d'un côté et la technologie de l'autre. Quoi. Au moins, il y a un drone qui cherche le thermique, enfin qui reconnaît les corps chauds et elle se cache dans l'eau froide. Après une journée de course-poursuite où elle est frigorifiée, elle se baigne dans les sources chaudes qui la réchauffent. C'est incroyable. C'est comme si c'était la nature et elle en combat contre la modernité et la pollution, quoi.
Et le capitalisme.
Et le capitalisme, exactement.
Merci C'est beaucoup, magnifique. Swan.
C'était un plaisir.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.